Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Les béatitudes sont parmi les plus connues des paroles prononcées par Jésus. Mais que signifient-elles?
Robert est de retour parmi nous pour nous aider à les comprendre.
Dans la série que nous commençons aujourd'hui, nous abordons la quatrième béatitude que voici. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.
Merci Hélène. Ce texte se trouve dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, au verset 5. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité. Bonjour Robert.
Merci Yann, et bonjour à tous. Revenons sur ces phrases courtes, prononcée par Jésus au début de son sermon sur la montagne, et qui aborde les questions que voici. Comment être heureux ou béni? Comment trouver le bonheur? Et en quoi consiste la faveur de Dieu?
Nous avons déjà vu que Jésus répond à ces questions de façon surprenante, car dans les versets qui précèdent celui que nous venons de citer, il déclare « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres » et « Heureux ceux qui pleurent ».
Le verset qui nous intéresse à présent est tout aussi étonnant. Jésus affirme « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Ce verset est si riche en instructions spirituelles que nous allons l'étudier durant au moins 4 émissions.
Commençons par le sens des paroles « avoir faim et soif ».
Jésus parlait à des foules qui vivaient dans un pays chaud, et beaucoup connaissaient la pauvreté. Ces gens pouvaient facilement manquer d'eau ou de nourriture. De ce fait, ils savaient que cela signifiait d'avoir faim et soif. En fait, notre corps crie son désir de recevoir ce dont il a besoin pour vivre.
Mais Jésus parle d'avoir faim et soif de justice. Que voulait-il dire par là?
Ici, il faut donner aux mots la faim et la soif un sens imagé dont la signification est simplement d'éprouver un désir ardent ou intense pour quelque chose. Tout comme notre corps manifeste ses appétits pour l'eau et la nourriture, notre cœur aussi exprime des désirs. Nous éprouvons des ambitions et des aspirations dans la vie, et ces désirs contrôlent et façonnent nos décisions, nos choix et nos comportements. En fait, à travers cette quatrième béatitude, Jésus nous pose les questions fondamentales, puis il apporte une réponse à ces questions.
Quelles sont donc ces questions importantes dont vous parlez?
Tout simplement, que désirez-vous dans la vie? De quoi avez-vous faim et soif? Quelles sont vos ambitions et vos aspirations? Quelles sont vos priorités?
Et pour Jésus, notre désir premier devrait être la justice. C'est tout de même une réponse étonnante.
C'est vrai, Yann. De nos jours, les gens ont plutôt faim et soif de richesses ou des biens matériels. D'autres ont faim et soif de pouvoir. D'autres encore ont faim et soif de réussite sportive ou professionnelle. On peut aussi avoir faim et soif d'épanouissement sentimental ou sexuel. C'est en ces termes que les gens définissent une vie heureuse et bénie. Et certains, des soi-disant enseignants chrétiens, vont même dans ce sens.
Toutefois, ce n'est pas la réponse que Jésus apporte. Selon lui, une vie heureuse et bénie consiste en la recherche de la justice.
C'est exact, Yann. Les aspirations et les ambitions que je viens de mentionner ne sont pas forcément mauvaises en soi. Il est légitime de vouloir sortir de la pauvreté en poursuivant son éducation ou en se formant pour un métier. Il est légitime d'avoir des ambitions et des aspirations dans la vie, de vouloir fonder une famille et d'élever des enfants. Cependant, à travers cette béatitude, Jésus oriente nos regards vers une priorité qui, selon lui, est bien plus importante encore que toutes nos autres aspirations et qui mérite que nous nous y attardions un moment, d'autant plus que c'est peut-être une priorité que nous avons tendance à négliger.
Et nous nous y attarderons pendant quelques émissions, si j'ai bien compris.
Ah, c'est vrai, Yann. Mais dans un premier temps, je voudrais citer un autre verset biblique qui se trouve un peu plus loin dans ce même discours que Jésus a prononcée sur une montagne. Jésus s'adresse ici aux personnes inquiètes, angoissées ou préoccupées du fait des soucis matériels auxquels elles sont confrontées. Et il leur annonce qu'il est inutile de s'inquiéter de ces choses, car Dieu leur Père sait prendre soin de ses enfants. Il leur annonce toutefois qu'elles devraient avoir une toute autre préoccupation. En effet, il leur déclare « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou bien que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. »
Je comprends. Jésus parle clairement de ce qui doit être notre préoccupation première. Et une fois de plus, il s'agit d'avoir faim et soif de justice, et plus précisément, de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Robert, nous affirmons que la recherche de la justice divine doit être pour nous une priorité, mais comment définir cette justice ?
Dans la Bible, le thème de la justice est un thème assez vaste, et c'est pour cela que nous allons y consacrer plusieurs émissions. Nous aborderons cette question de la justice sous trois perspectives différentes. D'abord, nous répondrons à la question que voici. Comment l'être humain, qui est de nature injuste, peut-il être accepté et entretenir une relation avec Dieu, qui, lui, est parfaitement juste ? En termes théologiques, il est question de notre justification. Et la question que nous pouvons poser à chacun est celle-ci. Votre nature injuste vous préoccupe-t-elle ? Désirez-vous que ce problème soit réglé pour pouvoir vivre en communion avec Dieu ? Ensuite, nous répondrons à la question suivante. Comment mener une vie juste ? On parlera de la sanctification. Dieu est juste et saint. Aspirons-nous à refléter sa justice et sa sainteté dans notre cœur ? Dans nos paroles et dans toute notre conduite, Jésus est le véritable exemple à suivre. Désirons-nous lui ressembler de plus en plus ? Enfin, nous parlerons de la justice sociale, économique et politique, autrement dit de la justice dans nos communautés et nos pays. Avons-nous faim et soif de voir la justice divine transformer notre société en bien ? Comment promouvoir et contribuer au progrès de la justice sociale et économique, là où nous vivons. Voilà les questions que nous aborderons lors de nos prochaines émissions.
Merci. Je comprends qu'effectivement ce sujet est vaste et qu'il existe plusieurs dimensions au thème de la justice. Cependant, pouvez-vous conclure en nous aidant à comprendre pourquoi, pour Jésus, la recherche de cette justice doit représenter pour nous une priorité encore plus pressante que nos autres préoccupations?
Oui, j'ai deux remarques à faire. D'abord, notre destin éternel est en jeu. La Bible, en effet, enseigne que seules les personnes justes hériteront de la nouvelle création et de la vie éternelle. Les personnes injustes, quant à elles, seront condamnées. Il est donc important de savoir si nous faisons partie des justes ou des injustes. Il est essentiel de savoir sur quels critères Dieu déclare une personne juste ou non. C'est une question qui doit nous préoccuper. Ensuite, nous devons avoir faim et soif de justice, car c'est en la recherchant que Dieu répandra en nous sa bénédiction. Cela ne veut pas dire que Dieu nous récompensera en nous accordant tout ce que nous souhaitons. Si nous vivons une vie juste, non. La justice est une source de bonheur et de bénédiction, car elle représente les desseins de Dieu pour l'humanité, pour l'individu et les communautés. Dans la mesure où nos vies et nos communautés reflètent la justice divine, les gens vivront alors davantage dans la paix et la sécurité, dans l'harmonie et l'amour, et ils pourront même jouir d'une certaine prospérité.
Merci Robert. Nous sommes impatients d'en apprendre davantage. En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Merci Yann, et au revoir à tous.
présent, le moment est venu de commencer notre courte méditation biblique. Pour accompagner cette série sur les béatitudes, nous nous pencherons sur les paroles du livre du prophète Ésaïe. Claude est là pour nous faire part de ses réflexions. Mais d'abord, écoutons la lecture du livre d'Ésaïe, au chapitre 42, les versets 1 à 4.
Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi.
Notre premier invité a souligné le thème de la justice, et je vais, moi aussi, parler de la justice, mais cette fois-ci à travers les écrits du prophète Ésaïe. Dans les versets que nous venons d'écouter, nous apprenons que Dieu avait l'intention d'envoyer une personne qui aurait pour mission, selon le prophète, d'établir la justice pour les nations. De qui s'agit-il? Et comment établira-t-il la justice sur la terre? Ces versets lus font partie de ce que l'on appelle les chants du serviteur. Ce sont des prophéties qui parlent du serviteur de l'Éternel, de sa nature, de son caractère et de sa mission. En lisant les évangiles dans le Nouveau Testament, nous comprenons que Jésus est le serviteur de l'Éternel. Il est ce personnage promis par Dieu et annoncé par le prophète. Il est celui qui devait établir la justice sur toute la terre. Cependant, lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons nous lamenter, manque de justice évident. Avec la sincérité, sondons aussi notre propre cœur, nous ne pouvons que constater que nous sommes des personnes injustes et que le péché est bien enraciné en nous. Où est donc cette justice promise? En quoi Jésus a-t-il établi la justice? Il ne nous reste pas assez de temps pour développer des réponses claires maintenant. Toutefois, nous pouvons dès maintenant affirmer que la justice de Dieu s'établit avec la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Alors, rejoignez-nous la prochaine fois pour en savoir plus.
Merci Claude. En attendant de vous retrouver pour la suite de nos séries sur le thème de la justice, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.